communautaire consacré principalement à nos orientations budgétaires 2023. Je vais d'abord procéder à l'appel. Madame Marie-Andrea Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci est excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure Giton, pardon. Madame Laurence Defont-Fargeon est excusée, m'a donné pouvoir. Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez est excusée, a donné pouvoir à Madame Françoise Bouclet, Madame Florence Jouve-Lavollée est excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier est excusé, a donné pouvoir à Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Claude Raoux est excusé, a donné pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini est excusée, a donné pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Viglier. La première question, conformément au Code général des collectivités, il convient de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 3, il s'agit de la programmation au contrat de ville 2023. Donc, pour la ville de Bolène, vous avez l'ensemble des délibérations qui portent les avenants du contrat de ville et la volonté de la communauté de communes de participer au financement des actions du contrat de ville. Et vous avez les subventions relatives aux actions qui sont toutes détaillées dans le cadre de la participation de notre collectivité dans le contrat de ville. Que les sommes versées pour les projets retenus viendront en complément des participations versées par les autres financeurs. Le conseil communautaire est invité à valider l'enveloppe et la répartition détaillée et à m'autoriser à signer l'ensemble des documents qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des questions? Juste signaler qu'en qualité de vice-président de la mission locale du Haut-Vaucluse, je ne prendrai pas part au vote. Madame Arnaud, pour le hand, le handball, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un intérêt dans ce rapport? Autre? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité sans ma voix et sans celle de Madame Arnaud. La question numéro 4, il s'agit du contrat de ville. Donc là, c'est un prolongement dans le contrat de ville d'un an dans le cadre des délibérations. Donc le rapport 4, c'est Grand Delta Habitat, et le rapport suivant, ce sera sur Valise, puisque ça avait été voté en octobre. Donc pour le rapport numéro 4, il s'agit de prolonger dans le contrat de ville sur un an l'avenant numéro 2 pour l'année 2023 au contrat de ville 2015-2020, qui est prolongé depuis, à passer avec le bailleur social Grand Delta Habitat. Il s'agit de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 5, elle est identique. Ce n'est que c'est pour le bailleur social Valis Habitat, dans le cadre de l'avenant qui a été contractualisé avant la fusion avec Valis Habitat et qui sera régularisé dans le cadre de la fusion qui a pris effet au 1er janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 6 que je présente en l'absence de la vice-présidente au développement économique. Il s'agit de la subvention 2023 à l'association La Pannerie. Il s'agit de venir financer par une subvention de 1 000 euros au regard de l'avis favorable du conseil d'exploitation de l'office de tourisme qui a été rendu le 23 février dernier sur une opération qui porte un coût à 3 030 euros et de venir apporter une subvention de 340 euros sur les 1 000 qui ont été demandés sur une opération donc ferme en ferme les 29 et 30 avril 2023. m'autorisait à signer l'ensemble des pièces et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 7, il s'agit de la subvention au comité des fêtes de la Palue à l'occasion de la fête des balais. Il s'agit sur une opération de 18 000 euros, une subvention qui a été demandée à hauteur de 1 000 euros et une subvention qui est proposée de 340 euros au titre de l'animation proposée le premier week-end de juin pour la fête des balais à la Palue. De m'autoriser à signer l'ensemble des pièces et de dire que les fonds seront prélevés sur l'exercice en cours. Sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, il s'agit d'une subvention à l'association de l'Amicale du personnel communal de la mairie de La Palue, qui a un projet concernant la fête de la musique, de mémoire, puisque je ne le retrouve pas, l'organisation de la fête de la musique, 2800 euros pour un coût de projet, une subvention demandée de 1400 euros et une subvention de 340 euros à l'association de l'Amicale que nous attribuons en m'autorisant à signer les actes et en disant que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie à l'unanimité. Question numéro 9, il s'agit de la subvention au syndicat d'initiative de Bolène, considérant donc la communauté de communes est compétente dans la promotion du tourisme, que le projet décrit présente un coût de 6 050 euros, qu'à ce titre, il est demandé à la CCRLP une subvention exceptionnelle de 1 800 euros. Le conseil communautaire est invité à attribuer la somme de 1 800 euros au titre de l'animation touristique et culturelle au syndicat d'initiative pour l'année 2023, de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces relatives à l'exécution de la présente délibération et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Et que bien évidemment, je me dois de poser la question à tous ceux qui me sont membres du bureau du syndicat d'initiative de ne pas prendre part au vote et de quitter la séance. Et vous voterez pour vous. Donc, M. Vigli et M. Blanc. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, sans la voix de Mme Gutiérrez, de M. Vigli et de M. Blanc. Vous pouvez revenir, messieurs, pour le rapport. Merci. Numéro 10. Le rapport numéro 10, il s'agit d'une subvention au comité des fêtes de Mondragon à l'occasion de la fête du Drac sur un projet qui présente un coût de 75 000 euros. Il est demandé à la CCRLP une subvention de 2 000 euros. Le conseil communautaire est invité, après avis favorable du conseil d'exploitation, à attribuer une subvention de 1 000 euros à l'association du comité des fêtes de Mondragon pour organiser la 51e fête du Drac qui aura lieu du 12 au 14 mai. Prochain, de m'autoriser à signer l'ensemble des actes et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 11, il s'agit de la subvention 2023 à l'association du numérique, l'association ADN, qui participe donc à plusieurs missions de lutte contre la fracture numérique pour bon nombre de nos habitants et qui vient faire des permanences à la Palue, Mondragon, Mornas depuis 2 ans et qui a son association implantée à Bolène, rue Émile Zola. Vous avez l'ensemble des actions qui sont portées. Le projet décrit présente un coût de 35 718 euros et il est demandé à la CCRLP une subvention de 7 300 euros. Et donc, il est proposé, après avis favorable de la Commission du développement économique qui s'est réunie le 10 février dernier, d'être attribué une subvention de fonctionnement de 7 300 euros et de m'autoriser à signer tout acte s'y rapportant et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 12, il s'agit de la subvention, cette fois ADN, mais sur l'espace France Service, puisque vous savez que cette association a été labellisée France Service et donc remplit les missions de France Service comme l'ensemble des espaces France Service, c'est-à-dire avec les partenariats public, notamment des services de l'État et des partenaires de l'État. Il est proposé un projet sur cette mission qui coûte 94 625 euros. Il est demandé à la CCRLP une subvention de 27 000 euros. Après débat lors de la commission du développement économique lors de la réunion du 10 février dernier, le conseil communautaire est invité ce soir à attribuer une subvention de fonctionnement de 22 000 euros à l'association du numérique dans le cadre du fonctionnement de l'espace France Service et de m'autoriser à signer tout acte s'y rapportant et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal au cours et nature prévus et fonction à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Mossi.
Juste dans les considérations, si je comprends bien, l'État se désengage et donc la communauté de communes et prend en lieu et place une partie des charges. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État ferme des services publics, comme le trésor public et autres, et puis petit à petit, au départ, on donne de l'argent pour faire fonctionner les fonds de service. Chacun met des moyens, que ce soit la Sécu, la CAF, les mairies, etc., les communautés de communes, et puis l'État se désengageant, la charge revient à des gens qui, au départ, n'assumaient pas ces services. Cela dit, ADN fait un très bon travail et je voterai pour cette aide, mais je regrette le désengagement de l'État.
Et comme je pense l'ensemble des élus de ce territoire regrettent le désengagement de l'État, et ça a commencé avec les maternités, l'hôpital, et ça continue à détricoter. Et d'ailleurs, GEMAPI, la protection des populations, notamment sur les risques d'inondation, est un très bel exemple du désengagement de l'État sur la question du risque que nous devons faire assumer désormais à tous les contribuables. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté. À l'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 13, pardon. La question 13, il s'agit d'une convention de partenariat entre la communauté de communes Rhône-Lès-Provence et Pôle emploi dans le cadre de l'organisation du Forum interrégional Sud-Nucléaire. Vous le savez peut-être, la semaine du nucléaire s'arrête sur notre territoire. Et le 9 mars prochain, la ville de Bolène donc, met à disposition la salle de la Cigalière pour accueillir ce forum, et il nous faut venir préciser les conventions de partenariat pour la communauté de communes dans le cadre de ce forum interrégional Sud-Nucléaire organisé par Pôle emploi à la salle de la Cigalière, et m'autoriser à signer l'ensemble des actes et des documents qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 14, il s'agit cette fois du Forum de l'emploi qui est organisé chaque année, qui avait pris un peu de recul par rapport à cette période sanitaire et qui revient donc le 18 avril prochain à la salle de la Cigalière, cette fois donc une convention de partenariat entre la communauté de communes et Pôle emploi dans le cadre du Forum de l'emploi que nous faisons initialement, pour ceux qui s'en souviennent, dans le réfectoire et la cour du lycée Lucie Aubrac. Donc, approuver les termes de la convention et m'autoriser à signer l'ensemble des actes s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 15, il s'agit de l'adhésion au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Madame Ricard, vous avez la parole.
Oui, le sujet est assez simple, c'est de... voter favorablement pour l'adhésion à l'établissement public nommé CEREMA. C'est en fait un établissement qui permet de partager des données en matière de réflexion, de travail et de projet concernant l'environnement ou le développement économique. C'est un support important pour nos services et le président vous propose donc de voter favorablement cette adhésion pour le prix normalement de 1231 euros par an, qui a droit cette année à un abattement de 50%, donc une adhésion pour 615 euros. Et puis il s'agira aussi de nommer donc des représentants de la CCRLP dans cet établissement.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? D'abord, est-ce que, chers collègues, vous nous autorisez à désigner le titulaire et le suppléant à main levée et pas à l'isoloir ? Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Il est proposé de désigner donc la vice-présidente à l'environnement comme titulaire et le vice-président à l'aménagement comme suppléant. En l'occurrence, il s'agit de désigner Madame Ricard titulaire et Monsieur Sanchez suppléant, de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 16, il s'agit de la compétence GEMAPI. Monsieur Garcia, vous avez la parole.
Merci, Président. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, le rapport numéro 16, donc, c'est l'approbation de la dissolution du syndicat mixte du Rio Foro. La CCRLP et la CCAOP ont vocation à reprendre à leur compte les missions exercées par le syndicat mixte fermé du Rio Foro. Dans ces conditions, la CCRLP et la CCAOP, constituant les deux seuls membres du syndicat mixte du Rio Foro, ont souhaité mettre en œuvre d'un commun accord la procédure de dissolution de cette entité. Lorsque la dissolution du syndicat mixte est consentie par tous ses membres, cette décision est prise par un arrêté de la préfète du département qui constate la répartition de l'actif et du passif. Parallèlement, le comité syndical du syndicat mixte du Rio Foro procédera au vote de son compte administratif de clôture. Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la dissolution du syndicat mixte du Rio Foro, sachant que les conditions de sa liquidation feront l'objet d'une délibération ultérieure. Considérant que le syndicat du Rio Foro ne dispose pas de moyens financiers et humains pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées, considérant dès lors l'inutilité de conserver cette structure, le conseil communautaire est invité à approuver la dissolution du syndicat, reporter à une délibération ultérieure les modalités de liquidation de ce syndicat, d'autoriser le président à prendre toutes les décisions et solliciter auprès de Madame la préfète du Vaucluse l'arrêté de dissolution du syndicat mixte du Rio Foro.
Merci. Y a-t-il des interventions ?
Oui.
Madame Ricard.
Oui, merci. Merci, Président. Juste en deux mots avant de passer au vote, parce que ce sujet a fait l'objet de communications dans la presse. Et si aujourd'hui, Mornas n'a pas un avis particulier à donner et laisse place à la CCRLP de prendre toutes les décisions, il n'en demeure pas moins qu'il est bon de préciser un peu la position de la commune de Mornas sur ce sujet et que les choses soient très claires. C'est-à-dire qu'on a pu lire des choses controversé dans la presse et on peut entendre, si on se promène dans les campagnes, une certaine colère de la part de nos agriculteurs. Donc, on n'a pas très bien compris, nous, commune de Mornas, la précipitation dans la volonté de dissoudre ce syndicat qui a été proposé donc, par le maire de Piolenc. C'est vrai qu'on a constaté, nous aussi, des remarques négatives sur le travail de la nouvelle entreprise choisie, mais il n'en demeure pas moins, et je le remercierai publiquement ici, que lorsqu'on se tient au travail, on arrive à rectifier les choses, et François Lucas, vice-président du syndicat du Rio Foro, a été sur le terrain de façon efficiente, au plus près de l'écoute des agriculteurs qui ont toute la mémoire de cette plaine et de toute la cohérence de ce territoire qu'il faut savoir garder. Alors, ici, il s'agit pour ces RLP de récupérer cette compétence comme la loi le prévoit. Mornas a entièrement confiance en vous, Président, bien sûr. La confiance est entière au vice-président, évidemment, Juan Garcia. Et puis, nous nous prêterons à ce que les choses se passent en parfaite coopération avec les territoires voisins pour que ce bassin versant puisse permettre de protéger la population et l'agriculture en particulier, et qu'on ne connaisse plus ce que l'on a connu le 10 novembre dernier, c'est-à-dire une inondation qui devrait appartenir au passé si tout le travail de travaux de ces dernières décennies avait été déployé normalement. Voilà. Merci, Président.
Merci, Mme Ricard. Je vais répondre à votre intervention pour dire deux choses. La première, c'est que nous avons hérité d'une situation qui, au syndicat du Rio Foro, n'a pas forcément l'inventaire exhaustif que nous avions fait à l'époque, quand nous avions fait le syndicat hydraulique et d'autres syndicats, l'inventaire de toutes les mailles et tous les fossés du territoire, puisque nous avons balayé l'ensemble de la cartographie des fossés et des mailles du territoire, à l'exception du syndicat du Rio Foro, à la demande d'ailleurs du syndicat Rio Foro, et nous avons essayé de trouver quel était le gestionnaire
entre les communes, la communauté de communes, le syndicat hydraulique du Nord Vaucluse et tous les syndicats qui sont un peu des affluents. En l'occurrence, sur la question du Rieux Foireau, il y a le syndicat de l'Aigue. Et puis, nous, chez nous, le syndicat du Lèze. Et puis après, il y avait toute la partie de l'État avec la Compagnie nationale du Rhône et les digues du Rhône, puisqu'on a essayé de faire un maillage le plus large possible. Aujourd'hui, nous prenons la balle au bon, je dirais, dans le cadre d'une délibération qui a été faite par la communauté de communes Aigue-Ouvèze en Provence et son président Julien Merle, qui a délibéré en décembre pour dissoudre le syndicat du Rieux Foireau. Et la préfète nous demande de nous positionner quant à cette situation. Il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte et qui m'ont un peu inquiété sur l'exercice budgétaire 2022. J'en avais parlé d'ailleurs à François Lucas. C'est la question de l'augmentation de la cotisation de la CCRLP au syndicat du Rieux Foireau, quand en même temps, il n'y avait pas d'augmentation des travaux sur la partie mornacienne impactant la question. Et c'est pas mince affaire puisque nous sommes passés de 30 000 euros de cotisation à 54 000 en n'ayant pas plus de travaux réalisés sur notre partie. Et les statuts sont tellement rédigés et anciens que lorsqu'il y a un appel, si vous voulez, il n'y a pas de dissociation comme on le peut le faire dans d'autres syndicats, entre la question du fonctionnement, la question des systèmes d'endiguement et la question du coût administratif du personnel. La question du personnel s'est réglée puisqu'il y avait désormais plus aucun salarié dans ce syndicat puisque la salariée n'est plus dans le syndicat. Et la question de l'enveloppe complètement mélangée entre les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, nous posait quelques difficultés. Si bien que nous avons une répartition à 29% qui est fixée dans les statuts du syndicat du Rieux Foireau et qui est soumise simplement à la délibération de l'Assemblée syndicale du Rieux Foireau qui pourrait appeler par exemple 1 million de contributions et nous serions liés à payer ces 290 000 euros de cotisation. Nous avons regardé avec Madame le maire de Mornas, ses collègues élus et puis surtout les agriculteurs de la plaine, et je pense à un notamment que je peux citer, Monsieur Boyer, pour venir comprendre comment nous allions agir là-dedans. Et donc, aujourd'hui, nous reprenons la question de la gestion du syndicat du Rieux Foireau au travers d'une dotation que de toute façon nous donnions au Rieux Foireau et nous la gardons désormais et nous ferons les travaux comme nous savons le faire sur d'autres cours d'eau qui traversent notre territoire. Et nous sommes surtout certains que cet argent ne servira pas à autre chose, c'est-à-dire que quand Piolenc a des problèmes d'endiguement, de ces problèmes de système d'endiguement, Mornas n'a pas de problématique d'endiguement. Et donc, je veux être très clair là-dessus, nous, aujourd'hui, notre contribution servait simplement à entretenir les fossés, les cours d'eau et à nettoyer la végétation et ne servait pas à créer des systèmes d'endiguement. La précipitation un peu cavalière du maire de Piolenc qui a mis son adjoint à la présidence du Rieux Foireau il y a encore quelques jours, l'absence de construction et de concertation nous porte à croire que nous devons prendre la balle au bond de cette dissolution qui a été voulue par la CCAOP, pour laquelle nous souhaitions désormais juste mettre l'enveloppe nécessaire à l'entretien des fossés et des cours d'eau et pas que cet argent serve à d'autres. Je pense que d'autres collectivités doivent financer les systèmes d'endiguement, tout simplement. Donc c'est une maîtrise en direct, mais rien ne change sur la question de la gestion, puisque même si c'est la CCRLP qui finance, ça sera toujours les élus communautaires de Mornas qui décideront des orientations d'aménagement, comme ça a toujours été le cas. Je vous rappelle au passage que c'est les élus de Mornas qui siégeaient au syndicat du Rieux Foireau pour notre collectivité, pour représenter au mieux les intérêts de leur commune. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, pour pas que ça fasse d'autres interprétations que celle-là. Et d'ailleurs, nous attendrons que la DDT et les services de l'État actent la dissolution, qui pourrait intervenir vraisemblablement à la fin de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire en fin d'année. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 17, il s'agit cette fois du Lauzon. Monsieur Garcia.
Oui, le rapport numéro 17, donc c'est le transfert de compétences GEMAPI au profit du syndicat mixte du bassin versant du Lèze, du cours d'eau Le Lauzon Est sur la commune de Bolène. Considérant la volonté communautaire de promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à une échelle géographique pertinente, Considérant que le bassin versant du Lozon Est sur la commune de Bolène dépasse le cadre territorial de la communauté de communes et qu'aucune structure de gestion n'existe à l'échelle du bassin versant, qui concerne 3 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, considérant que la présente délibération constitue un acte préparatoire au transfert de compétences GEMAPI au profit du syndicat mixte du bassin versant du Lèze, de Saint-Restitut jusqu'à l'A7 sur la commune de Bolène. Le conseil communautaire est invité à approuver le transfert de compétences, d'approuver, dans l'attente du transfert effectif de la compétence GEMAPI au syndicat, la délégation de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre pour ce qui concerne la réalisation du programme d'entretien pluriannuel des berges et du lit du cours d'eau du bassin versant du Lozon, selon les termes de la convention de délégation ci-jointe. Autoriser le président à signer.
Merci, Monsieur Garcia. Y a-t-il des questions ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, sans la voix de M. Grappin. La question numéro 18, il s'agit de conventions de gestion dans le cadre de la compétence transport, et il s'agit de transport scolaire à Mondragon. Monsieur Lambertin.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons 2 délibérations à l'identique, pratiquement, une qui concerne Mondragon, l'autre Mornas. Il s'agit dans le cadre des transports, donc une convention de gestion pour permettre aux communes, d'abord la commune de Mondragon, d'assurer donc la surveillance lors des transports scolaires au niveau communal, donc pour Mondragon d'abord, et ensuite pour Mornas. Et ces délibérations avaient déjà été prises, il convient de les renouveler. Donc on renouvelle les conventions, c'est fait pour 1 an, mais renouvelable 2 fois. Donc dans 2 ans, il faudra redélibérer, peut-être. Voilà, donc moi je vous mets donc d'abord pour Mondragon.
Donc pour Mondragon, est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport 19,
même chose
pour Mornas.
Ça concerne la commune de Mornas cette fois-ci, donc même délibération.
Est-ce qu'il y a des interventions ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 20, il s'agit de la convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire. Pour la commune de La Palue, M. Perron, vous avez la parole.
Alors, vu l'avis favorable de la commission des finances, réunie le 21 février 2023, vu le projet de convention proposé en annexe, considérant que certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, ces missions n'ayant pas donné lieu à transfert de personnel, considérant qu'il convient ainsi de mettre en place une coopération entre les communes et la communauté de communes, à cette fin, il est proposé d'élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune de La Palue assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à compter du 1er avril 2023 pour une durée d'une année renouvelable 1 fois de manière expresse pour la même durée. Le conseil communautaire est invité donc à valider les termes de la convention de gestion annexée à la présente et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président, à signer l'ensemble des actes et documents s'y rapportant.
Merci Monsieur Perron. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 21. Il s'agit cette fois toujours sur ce périmètre de compétences pour la commune de Mornas, Monsieur Perron.
Alors c'est la même question. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances réunie le 21 février 2023, considérant que certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, ces missions n'ayant pas donné lieu à transfert de personnel, considérant qu'il convient ainsi de mettre en place une coopération entre les communes et la communauté de communes, il est proposé d'élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune de Mornas assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, à compter du 1er avril 2023. Alors pour une durée d'une année, renouvelable 1 fois de manière expresse pour la même durée. Le conseil communautaire donc est invité à valider les termes de la convention de gestion annexée à la présente, et bien sûr d'autoriser le président à signer l'ensemble des actes et documents s'y rapportant.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 22, il s'agit de la convention relative au remboursement de la consommation d'électricité de panneaux électroniques à Bolène. Monsieur Perron.
Alors, vu l'avis favorable de la commission des finances du 21 février, donc, il est proposé de renouveler la convention relative à l'implantation de panneaux d'information municipale et l'utilisation du système d'électricité du PIT de Bolène. La communauté de communes Rondelès-Provence conserve la prise en charge du contrat de fourniture d'électricité pour l'ensemble des équipements raccordés au compteur du point d'information du tourisme du PIT. La commune de Bolène remboursera annuellement à la communauté de communes la part relative à la consommation du panneau électronique, calculée selon la moyenne de consommation annuelle du panneau, à savoir 8 760 heures multipliées par 240, donc 2 102 400 watts-an au coût du kilowatt facturé par le fournisseur d'énergie à la communauté de communes. Le conseil communautaire est donc invité donc, à valider le renouvellement de cette convention suivante. Et d'autoriser, Monsieur le Président, bien sûr, à signer.
Merci. Il s'agit donc d'une prévision, et bien évidemment, on ne facturera que le consommé. Et vous aurez tous remarqué que 8 760 heures, c'est exactement le nombre d'heures sur une année, 24 heures sur 24, mais ce n'est pas forcément la réalité de l'éclairage du panneau, mais à la facture du panneau, c'était pour permettre d'avoir cette moyenne de consommation. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 23, il s'agit de la définition d'un intérêt communautaire sur des compétences optionnelles. Monsieur Perron.
Alors, vu l'avis favorable de la commission des finances, donc, considérant que l'intérêt communautaire dans le cadre de la compétence construction, aménagement, entretien, gestion des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire, comprend à ce jour, sur Bolène, donc, école Péry et les deux d'Hibiscus, école Dufaux, ainsi que les deux parkings, et l'espace vert situé à l'entrée de l'école, école Giono, ainsi que le parking des enseignants, l'espace vert situé côté restaurant scolaire et la terre pleine située à l'entrée, école Blanc située à l'entrée de l'école et le talus situé à l'entrée nord, école Curie, ainsi que les parkings des enseignants, le portail d'accès, les accédés, les espaces verts situés devant le bâtiment de l'école élémentaire, à côté du portail d'accès, côté cours face à l'école de musique, devant le restaurant scolaire et l'espace vert clos devant entre l'école maternelle et le parking Gambetta. Et ensuite, l'école de Tamaris. Pour Mondragon, le groupe scolaire Jean Moulin dans sa totalité, y compris l'espace Sylvette Nicolas, les parkings usagers et enseignants, la garderie périscolaire, donc située à l'intérieur et à l'accueil de loisirs, sans hébergement, avec le sage. Pour Mornas, l'école Dolto, son annexe périscolaire, le Pichoun, ainsi que les aires de stationnement des enseignants des usagers. Excusez-moi. Et pour la Palue, l'école Pergot, et les aires de stationnement, l'école du Parc et les aires de stationnement. Ensuite, considérant qu'au sud de l'école de Tamaris, sur la même emprise foncière, parcelle AE 142, se trouve un terrain arboré et triagé possédant un portail de communication avec l'école et permettant la pratique sportive des élèves. La commune de Bolène sollicite donc l'ajout de l'équipement suivant à l'intérêt communautaire terrain de sport de l'école de Tamaris. Le conseil communautaire donc est invité donc à modifier la délibération du 13 mars 2018 du conseil communautaire relative à la définition de l'intérêt communautaire des équipements préélémentaires et élémentaires, rajouter l'intérêt communautaire à l'équipement suivant commune de Bolène, terrain de sport de l'école de Tamaris, préciser que les modalités financières de cette modification feront l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
Merci, Monsieur Perron. Tout le monde aura corrigé l'école du parc qui n'existe plus puisque c'est l'école René Char. Il faut juste le modifier afin qu'on n'ait pas de problème sur la palue. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 24, il s'agit du marché de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. Monsieur Perron.
Alors, considérant que la communauté de communes entend poursuivre l'exploitation de ce service sous forme d'un marché public confié à un prestataire extérieur, l'objet, c'est gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, procédure, appel d'offres ouvert, durée d'exécution du marché, l'accord cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans. À compter de la notification du marché, il pourra se renouveler une fois pour une période de 24 mois par décision expresse de l'acheteur. La durée maximale du marché ne pourra excéder 4 années au total. Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 3 janvier 2023, fixant la date limite de remise des offres du 6 février 2023 à 12h. La commission d'appel d'offres réunie le 16 février à 10h a désigné l'offre suivante comme économiquement la plus avantageuse. Leur titulaire, c'est SG2A, qui se situe 355 rue des Mercières à Rieux-la-Pape, pour un montant annuel hors taxe de 57 900 euros et un montant de TTC donc de 69 480 euros. Le conseil communautaire est donc invité à approuver la procédure d'appel d'offres relative à la gestion de l'accueil des gens de voyage, d'autoriser M. le Président à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres et autoriser le Président à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Merci M. Perron. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 25, il s'agit de la cession de l'ensemble immobilier au 8 avenue Pasteur à Bolène, cadastré CB104. Il s'agit du bien qui, pour ceux qui le connaissent, est l'ancien flamenco sur le Pasteur, pour une superficie de 580 mètres carrés. Nous avons une proposition de pouvoir vendre amiablement ce bien. Au bénéfice de Grand Delta Habitat pour un montant de 380 000 sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires à l'opération. Et donc il convient d'accepter cette vente et de m'autoriser à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cet immeuble par vente de gré à gré dite amiable dans les conditions prévues au Code général des collectivités territoriales et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Enfin, dire que les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Calero.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là encore face à une belle illustration de vos échecs. Vous aviez acheté le Flamenco pour revitaliser le centre-ville, mais de revitalisation du centre-ville, nous n'en verrons pas. Et aujourd'hui, vous revendez ce bien. Un peu comme pour la poissonnerie, un peu comme votre politique depuis 10 ans, à grand renfort d'articles. J'ai encore d'ailleurs celui du 16 juin 2021. Celui-là, je m'en rappelais. Le Flamenco était vendu. Vous posiez tout sourire, comme toujours dans le journal. Et comme toujours, les lendemains déchantent. Et 2 ans après, le Flamenco est toujours fermé et le bâtiment continue de se dégrader. Vous êtes obligé de revendre ce bien à un opérateur social, car vous êtes incapable de le restaurer et de retrouver un repreneur. Heureusement que Grand Delta Habitat est là pour vous sauver la mise. Encore une fois, vous avez fait perdre du temps et de l'argent aux contribuables volénois. C'est un nouvel aveu de votre incapacité à mener des projets. Vous communiquez beaucoup, mais quand vient l'heure du bilan, il n'y a rien. Cela rejoint le sujet abordé hier en conseil municipal à Bolène, où vous sollicitiez un nouveau délai pour le dispositif Petite Ville de demain. Vous aviez 18 mois pour rédiger un projet. Vous ne l'avez pas fait. Pour le Flamenco, vous avez eu 5 ou 6 ans, mais là aussi, il vous faut un délai. Il vous faut toujours un délai, alors que vous avez tous les pouvoirs. Quel aveu !
Bien, j'en attendais pas moins de vous, Madame Calero, puisque à part diffuser votre venin et vos commentaires, vous ne savez pas faire grand-chose d'autre. Parce que vous êtes resté 12 ans aux responsabilités et que vous avez oublié d'un revers de main que pendant 12 ans, vous n'en avez rien fait de ce bâtiment, si bien que l'intercommunalité l'a acheté, que porter l'investissement pour réhabiliter le Flamenco, c'est mettre 1,5 million de travaux dans un bâtiment qui nous a coûté 380 000 euros, que notre responsabilité, c'était de justement pas dilapider l'argent du contribuable, contrairement à ce que vous avez pu faire, vous, notamment sur les zones d'activité. On pourrait parler de la ZAC, d'ailleurs, pendant vendu et revendu de nombreuses fois, payé 3 ou 4 fois par le contribuable. Et ça ne vous posait pas de difficultés. Même quand le contribuable paye vos déplacements personnels, Madame Bompard, ça ne vaut pas. Mais vous parlez de Bolène hier, oui. Je sais que ça vous dérange, mais vous défendez, Madame, vous n'avez pas la part. Vous voyez que ça vous dérange parce que vous défendez le contribuable que quand vous avez envie de défendre le contribuable, mais quand vous prenez l'argent du contribuable pour des déplacements personnels, là, le contribuable, ça ne vous dérange pas. Et nous aurons, mais non, mais vous aurez l'occasion d'en parler et vous inquiétez pas, vous financerez la totalité et des procédures et des frais d'avocat que nous avons engagés dans ce dossier. Vous inquiétez pas. Par contre, moi, sur l'argent du contribuable, il aurait été indécent de vendre moins cher que ce que nous avons acheté, et nous étions dans l'incapacité financière de porter à plus d'1,5 million les travaux, vous n'aurez pas la parole madame, 1,5 million sur la réhabilitation du Flamenco. Et je vais vous répondre sur PVD, puisque vous m'avez parlé des délais. Les délais sont demandés à la demande de l'État de 6 mois, parce que l'État n'est pas en capacité d'organiser Petite Ville de demain. C'est l'information de la DDT ce matin, suite au conseil municipal que nous avons eu hier, et donc tous les labels Petite Ville de demain du département de Vaucluse sont tous prolongés de 6 à 9 mois. Bolène n'en fait pas l'exception, le délai ne vient pas de nous, mais si vous étiez un peu plus averti, vous en seriez certainement un peu plus aux affaires. En ce qui concerne Grand Delta Habitat, nous avons l'opportunité de récupérer l'antenne, qui est aujourd'hui l'antenne d'Orange, qui permettrait à 20 collaborateurs d'Orange de venir sur Bolène, dans le cœur de ville, pour gérer 2000 logements du parc, qui va de Montélimar jusqu'à Mornas et qui passe même par l'enclave des Papes, puisque Grand Delta est très grande sur les logements. Et ça permettra également, puisque le rez-de-chaussée serait dédié à l'agence Grand Delta Habitat, d'avoir des logements à l'étage sur l'ancienne hôtellerie, sur l'ancien hôtel, en réhabilitant l'ensemble des chambres, en y faisant des appartements. Donc cette réalisation permet à la fois de faire venir l'opérateur, de créer des appartements. Et en ce qui concerne l'ancien projet, il y avait un projet qui nous avait été proposé lorsqu'il est passé devant le notaire, et j'en veux ni à la personne qui nous a proposé ça, puisque ça fait l'objet d'un appel à projet, mais à la fois la frilosité des banques, le contexte dans lequel nous avons lancé ce projet, a fait que la personne qui avait proposé ce projet n'a pas eu le suivi des banques pour aller jusqu'au bout de cette réalisation. Donc moi je veux bien tout entendre, mais sur ce sujet, à part commenter notre action, vous, en 12 ans, vous n'avez pas fait grand-chose. Voilà sur ce sujet-là. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 26, Madame Bompard, c'est le préambule au débat d'orientation budgétaire sur la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit donc d'un rapport préalable. Monsieur Perron, vous avez la parole.
Alors, vu le décret,
allez madame, si vous
voulez. Vu le décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales, l'article 1. Vu le protocole d'accord du 8 mars 2018 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, il est rappelé que la loi du 4 août 2014 dispose que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination. L'employeur est ainsi tenu de veiller à l'égalité professionnelle et salariale et de rechercher la mixité dans les métiers et les postes d'encadrement. Ainsi, le décret du 24 juin 2015 a bien confirmé cette prérogative et prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes préalablement au débat sur le projet du budget. Le Conseil communautaire donc est invité à prendre acte de la présentation du rapport de la communauté de communes sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes préalablement au débat d'orientation budgétaire 2023.
Merci M. Perron. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Donc il s'agit de prendre acte, pardon. Question numéro 27, il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Conformément à l'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le budget de la communauté de communes est proposé par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l'exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Monsieur Perron, vous avez la parole.
Alors, considérant que ce rapport d'orientation budgétaire fait plus de 30 pages, je n'ai pas à vous en faire la lecture complète, mais je tenais à mettre en lumière certains points. Concernant l'année 2022, tout d'abord, en section de fonctionnement 2022 est marquée par 3 principaux éléments. Le premier, le contexte économique national et international avec une inflation extrêmement élevée qui a entraîné tout au long de l'année 2022 et encore en 2023 une hausse des coûts des denrées alimentaires, de l'énergie, des carburants et des matières premières. Deuxièmement, la prise en charge sur une année complète de la compétence mobilité pour laquelle les attributions des communes membres ont été déduites durant le courant de l'année 2022. Numéro 3, le maintien jusqu'en juillet 2022 des cadences accélérées de nettoyage dans les écoles pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle. Les dépenses de fonctionnement 2022 de la communauté de communes sont enfin toujours fortement marquées par le reversement de 40% de son budget de fonctionnement aux communes, alors que, rappelons-le, la moyenne de reversement des EPCI à des communes membres s'élève habituellement à 25%. Deuxièmement, concernant les investissements portés sur le territoire en 2022, la communauté de communes a poursuivi sa politique pluriannuelle d'investissement et a porté près de 8 millions d'euros de travaux sur nos communes. 1 400 000 euros investis pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI, plus de 1 400 000 euros pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des écoles et des restaurants scolaires, près d'un million d'euros pour la manufacture, près de 800 000 euros pour la maison du terroir, plus de 600 000 euros investis dans les bâtiments culturels, 474 000 euros pour la construction de la station phytosanitaire de Bolène, 320 000 euros pour la création de 3 commerces de proximité à la Motte-du-Rhône, 175 000 euros au titre du renouvellement des équipements liés aux déchets ménagers BAC et PAV. Ces investissements ont été portés par des financements propres et des subventions sans recours à l'emprunt en 2022. Deuxièmement, concernant les orientations 2023, le contexte financier 2023 s'annonce fort complexe et défavorable à la communauté de communes au regard notamment des deux principaux facteurs. Premièrement, la suppression de la CVAE dès 2023, conjuguée à la poursuite de la réduction des bases de la CFE pour les entreprises industrielles, entraîne pour un territoire à forte valeur ajoutée et industrielle, comme le nôtre, une baisse effective et à venir des recettes liées à l'activité économique. En effet, 2023, la CCRLP se voit ainsi privée au titre de la CFE de ses ressources fiscales pour environ 1 million d'euros, et ce pour la troisième année consécutive, soit 3 millions d'euros depuis 2021. La CVAE, qui avait subi déjà une baisse de plus de 1,8 million d'euros en 2022, sera tout simplement supprimée et l'État est compensé par l'État à un niveau qui reste à déterminer. On n'est pas encore. La complexité des mécanismes de compensation détaillés en page 6 du DOB démontre une volonté de l'État à délier l'activité économique et l'attractivité d'un territoire de sa richesse fiscale. Ensuite, avant la mise en place de ces mécanismes, ce sont tout simplement près de 3 millions d'euros qui vont échapper chaque année à la CCRLP et 1 million d'euros au titre de la SAP et 1 800 000 euros au titre de la CVAE. Ensuite, il est primordial de rappeler que l'inflation va poser de matière drastique sur les finances de la CCRLP en 2023. Le coût de l'énergie, tout d'abord, qui a fait un bond de plus d'un million d'euros supplémentaires, malgré tous les efforts menés par les élus de la communauté de communes pour négocier des conditions tarifaires les plus raisonnables possibles. Par ailleurs, le poste d'alimentation va également connaître une hausse significative de près de 300 000 euros, car les prix des denrées sont de constante augmentation depuis environ un an maintenant. Et enfin, le dégel d'un point d'indice consenti par l'État au 1er juillet 2022 va peser sur les dépenses de personnel sur la totalité de l'année 2023. Concernant les dépenses d'investissement, la programmation des investissements se poursuivra dans le champ des compétences à transférer à hauteur de 4 900 000 euros. Le budget principal pour 2023 prévoit la poursuite d'investissements forts tel que détaillé en page 28 du rapport d'orientation budgétaire, le déploiement de la fibre, les fonds de concours, la manufacture, la maison du terroir, les travaux sur les équipements scolaires, sportifs ou culturels d'intérêt communautaire, particulièrement les toitures, d'importants travaux au titre de la compétence GEMAPI. Concernant les budgets annexes, le SPANC a connu une année 2022 normale, avec 67 contrôles dans les 8 ans, ce qui se traduit par des niveaux de dépenses et de recettes habituels. L'Office de tourisme a pu mener sa progression d'été avec une clientèle en augmentation sensible, notamment les étrangers. Le pôle médical s'est étendu avec l'installation d'un cabinet d'ophtalmologie au rez-de-chaussée bâtiment B. La zone de la croisière et de la Castre sont en cours de commercialisation et les acquisitions foncières de la zone Z1-Prend-Aron-Parc se poursuivent. Les budgets 2023 dressés par des budgets annexes sont donc établis dans la prudence. Le budget du SPANC aura encore, pour cette année, un fonctionnement normal en termes de nombre de contrôles. Les budgets des zones de la croisière et des clusters sont dans l'ensemble en bonne voie pour la commercialisation. Sur le budget de la zone de l'annexe Zangler-Spark, les acquisitions progressent tandis que la vente a déjà été validée par le conseil communautaire le 30 mars 2021. Et le budget de l'Office de tourisme prévoit donc des actions de promotion du territoire et le pôle médical poursuivra son activité. Voilà pour les grosses grandes lignes du DOB.
Merci Monsieur Perron. Y a-t-il des interventions ? Madame, et après monsieur.
Je disais donc que ce débat d'orientation budgétaire se situe dans la droite ligne de ces 10 dernières années où vous êtes président de cette collectivité. Et malheureusement, on constate hausse des dépenses de fonctionnement, hausse des dépenses d'investissement familique, et endettement record. En effet, depuis 2020, vous annoncez des mutualisations entre Bolène, par exemple, et la CCRLP. Si elles figurent bien sur le papier, elles ne produisent toutefois aucun effet financier. En effet, et je voudrais rester un moment sur ce sujet, vous mutualisez des postes, vous transférez des personnels des communes vers la CCRLP, et pourtant, chaque année, le chapitre 012, celui des frais de personnel, augmente tant à la CCRLP qu'à la ville. Comprenne qui pourra. Je crois que c'est 10% sur ce budget. Et j'aimerais comprendre comment vous faites, encore une fois. Comme chaque année, les dépenses de fonctionnement sont en hausse. Près de 20% cette année. Comme à chaque fois, ce sont les habitants et les entreprises qui payent. Et effectivement, pendant 12 ans, monsieur, j'ai travaillé pour les Bolénois et pas pour mes photos dans la presse. Si l'on ajoute là à cela les hausses de charges que nous avons vues hier en conseil municipal à Bolène, la CCRLP est un gouffre et ne permet en aucun cas des économies. Vous déplorez dans les hausses des charges les prix de l'énergie. Mais d'une part, vos charges augmentaient déjà bien avant la hausse de l'énergie. Et finalement, dans votre budget, c'est assez marginal, au budget que vous présentez. D'autre part, et j'ai eu l'occasion de le rappeler, mais tout cela est le fruit de vos choix politiques nationaux. En effet, vous avez soutenu Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Vous avez soutenu, je répète, Madame Ricard, Monsieur Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Or, celui-ci avait pris comme engagement de fermer la filière nucléaire en France. Ainsi, le 27 novembre 2018, il annonçait sa volonté de fermer en 2018, pas hier matin. C'est important, Madame, de savoir pour qui on vote et pour qui on fait voter. C'est important. Parce que sinon, on en paye le coût après. C'est ce qui se passe. Donc en 2018, notre président Chéri, actuellement, disait, il annonçait sa volonté de fermer 14 réacteurs d'ici à 2035. J'ai encore le texto, hein, enfin, qu'on a capture d'écran. Voilà, vous allez voir. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif de deux réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Madame Borne, qui est alors ministre de la Transition écologique, annonçait, elle, le 19 février 2020, après l'arrêt de Fessenheim, que la fermeture du réacteur était un engagement d'Emmanuel Macron et que c'était un moment, tenez-vous bien, historique pour notre pays. Effectivement, c'est historique. Parce que comme calamité, comme énormité, comme bêtise, c'est historique. Et c'était cohérent avec sa politique, bien évidemment, de réduire le nucléaire, le nucléaire en France, qui était pourtant notre indépendance, qui a assuré notre indépendance énergétique, on le voit bien maintenant. Et puis, puisque en plus, nous payions l'électricité, nous avions le coût le plus bas de l'électricité en Europe. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous goûtons les fruits savoureux de cette politique historique. Alors ne vous plaignez pas, monsieur. Vous avez cautionné cette politique. Vous avez appelé les gens à voter pour Emmanuel Macron et vous avez appelé les élus à voter pour sa députée. Qui n'a pas été élue d'ailleurs, grâce à Dieu. Voilà les politiques que vous soutenez et qui nous conduisent à la ruine et au chaos. Mais, par ailleurs, je ne comprends pas bien de quoi vous vous plaignez, car dans le même temps, vos recettes augmentent de 8%. Là encore, vous essayez de cacher vos échecs derrière le contexte national. La programmation des investissements est sans surprise. Que retrouvons-nous chaque année depuis 2017 ? La Maison du Terroir et la seconde salle de cinéma. D'ailleurs, j'en arrive à me demander, on aimerait savoir, hein, si un jour, le montant total de cette construction, parce que d'avenant en avenant, on se demande si on est en train de faire une salle de cinéma ou 4 ou 5. Le coup, je l'attends à la fin, à la sortie. Les APCP sont un aveu. Vous n'avez aucune ambition pour le territoire. Vous ne contribuez pas à améliorer la qualité de vie des habitants de ce territoire, malgré des budgets colossaux. Il vous en faut toujours plus pour réaliser toujours moins. Ainsi, sur la question des déchets, vous augmentez les taxes, mais les services rendus à la population est loin de satisfaire cette population. La fibre, ce n'est pas vous. Les fonds de concours, ce n'est pas vous. Et en dehors de vos arlésiennes manufactures et halles de producteurs, parce que là aussi, on a commencé par une halle de producteurs, puis c'est devenu un centre je ne sais pas quoi, puis maintenant ça a encore changé, ce qui me fait dire d'ailleurs que si vous n'étiez pas sûr, monsieur, de faire le flamenco, il ne fallait pas l'acheter. Ou alors, ça veut dire que vous achetez simplement pour faire une photo et faire des annonces sur le développement économique que vous êtes le seul à avoir en compétence et non pas la ville de Bolène. Comme aucune autre des villes de cette intercommunalité, monsieur. Vous êtes seul à avoir le développement économique et si j'ai bien vu, cette question est posée en développement économique. Donc je disais, à quoi sert aux annonces, puisque vous ne les suivez même pas. Les habitants payent pour vos erreurs. Marie l'a dit sur le flamenco, mais c'est vrai pour ailleurs. Les habitants de tout ce territoire payent pour vos errances, vos erreurs et vos erreurs de jugement politique. Mais j'arrive au plus grave. Que vous ne fassiez rien pour le territoire, c'est une chose. Mais voir l'endettement devenir aussi colossal, c'est autre chose. Vous êtes parti de 24 millions d'euros en caisse en 2014 pour atteindre aujourd'hui 4 millions d'euros de dette. 4 millions d'euros de dette. Alors, ne me parlez pas de la dette de Bollène, encore une fois, parce que hier, je vous ai fait une analyse factuelle. La seule chose que vous ayez été capable de me répondre, c'est sur mes déplacements privés qui n'en étaient pas et que j'ai remboursé parce que vous m'avez dénoncé auprès de la préfecture, alors que j'avais eu le courage, moi, par rapport à tous mes autres collègues, de faire une délibération annonçant que je faisais ce voyage. Mais dans votre grande classe, vous avez écrit à la préfecture pour dire attention, et la préfecture, effectivement, comme j'avais été prévenue par d'autres maires de ne rien faire parce que il fallait pas que je fasse de délibération, qu'eux n'en avaient pas fait, et je parle pas du maire d'Orange, hein. Je parle d'autres maires que vous connaissez bien, et qui m'ont dit, madame, vous n'auriez pas dû faire cette délibération, parce que vous n'auriez pas été embêtés. Nous, nous